franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, la dent, le nouvel Eldorado des archéologues avec Hervé Guy et Alain Froment.
La dent, si vous voulez, ça enregistre un petit peu tout. Et notamment, ça croît un petit peu comme un arbre, ça décerne. Quand, par exemple, vous tombez malade, ou alors si vous avez un trouble psychologique assez fort, la cerne qui va se former à ce moment-là va être irrégulière. Et donc, nous, ça nous permet d'enregistrer, si vous voulez, tous les stress qu'un individu, pendant que ses dents étaient en formation, bien sûr, donc d'enregistrer tous les stress et qu'un individu a eu à subir, et puis surtout de les compter. Et effectivement, selon les populations, on voit très bien qu'il y a des populations qui ont beaucoup de cernes abîmées, et puis d'autres qui ont beaucoup moins de cernes abîmées.
Ouais, les cernes des dents, hein, comme les cernes des arbres, justement, Alain Froment, qui sont aussi des marqueurs alimentaires, parce qu'on peut savoir plein de choses aussi des habitudes de l'individu qui chaussait justement, qui avait ses dents.
Bien sûr. Alors sur ces anomalies, ce qu'on appelle ces hypoplasies de l'émail dentaire, on peut le faire sur les populations vivantes, puisqu'il suffit que vous regardiez vos dents. Si vous avez eu donc un stress au moment où la dent se formait, que ce soit une famine ou que ce soit une longue infection, effectivement, elle va enregistrer l'information jusqu'à la fin de votre vie, finalement. Mais la dent, c'est le nouvel Eldorado, je dirais, pour les archéologues, et notamment le tartre dentaire. Parce que le tartre dentaire, donc ce petit dépôt minéral là, il va piéger des résidus alimentaires. Donc vous pouvez amplifier l'ADN de ces résidus, savoir ce que les gens mangeaient comme légumes par exemple, et puis il va piéger les microbes, ce qu'on appelle le microbiote de la cavité buccale, notamment les streptocoques qui sont à l'origine des caries, et cette flore buccale, elle va évoluer selon le temps, selon le régime alimentaire.
Mais le tartre, il peut passer les époques justement comme ça? On peut retrouver encore de très anciens?
Ah oui, alors plus les soins dentaires sont pauvres, plus le tartre est abondant. Il y a des dents qui disparaissent sous le tartre pratiquement. Donc ça, on gratte ça et c'est une mine d'informations
et ça c'est votre bonheur.
Bien sûr.
Oui. Mardi, le syndrome de Stendhal, expliqué par Jean-Pierre Changeux et Pierre Lemarquis.
L'idée que nous avons proposée avec Stanislas Zehan, c'est que lors de la perception consciente, dans cet espace conscient qui est un espace global, connexionnel, avec des connexions de longue distance, mais qui est unique dans le cerveau, mais global, donc il y a une sorte d'ignition, en ce sens que il y a une amplification et envahissement de cet espace par une activité qui représenterait en quelque sorte l'activité électrique de l'espace conscient. Et la nuance que j'apporte, mais qui est importante, c'est que dans le cas de l'œuvre d'art, il y aurait une ignition singulière qui mettrait ensemble les émotions et la raison et réaliserait une sorte de synthèse exceptionnelle, rare, unique, qui pourrait entraîner une réaction physiologique majeure chez le spectateur, comme l'effet Stendhal. Et je dois dire que j'ai eu l'occasion de voir un éminent collègue, prix Nobel, venu des États-Unis, entrer dans la salle du Louvre avec la Victoire de Samothrace au fond, une perspective, et l'arrivée dans cette salle, il s'est mis à fondre en larmes. Et ce qui prouve bien que la composante esthétique peut avoir un effet majeur sur notre activité consciente, et jusqu'à ce que ça échappe même à la volonté du sujet.
Pierre Lemarquis.
Oui, c'est certainement une partie de l'action sur le cerveau du plaisir et de la récompense. Donc le cerveau de Stendhal devait être inondé de dopamine, d'endorphine. Mais il y a un cas particulier pour Stendhal, c'est qu'il venait de traverser les Alpes à pied, il n'avait pas mangé, et les sibylles qu'il a vues au plafond de Santa Cruz, il faut lever la tête. Donc il avait tout pour faire un malaise. Il avait tout pour faire un malaise.
C'est la beauté qui lui a tourné la tête, mais pas seulement alors.
Oui, en fait, il y contribue et comme ça vient d'être dit, évidemment, il y a une sorte d'inondation du cerveau par un certain nombre de neurotransmetteurs qui est quand même, il faut souligner, un aspect singulier et propre à l'œuvre d'art. C'est ça que je voudrais essayer de définir.
Ouais.
Et avec en même temps un aspect très important pour moi qui est ce qu'on appelle le consensus partium, la relation des parties avec le tout, l'harmonie d'ensemble, ce que Diderot appelait la perception, aperception des rapports, des relations, relations entre les couleurs, relations entre les formes, relations entre les sons et harmonie qui fait que le sujet se trouve en quelque sorte choqué.
Mercredi, avoir des amis favorise l'espérance de vie. Lolita Rubens et Saverio Tomasella.
Oui, tout à fait. C'était une étude en Australie avec des personnes âgées de plus de 70 ans qu'on a suivies sur 10 ans. Et ils ont effectivement regardé la mortalité chez ces personnes en regardant leurs relations sociales, notamment la famille, les enfants, les contacts, la fréquence des contacts et les amis. Et il s'est avéré que les amis avaient un effet bénéfique sur l'espérance de vie, alors que la famille ou les enfants, beaucoup moins.
Oui. Est-ce que justement, dans vos consultations, Saverio Tomasella, vos patients vous parlent beaucoup de leur relation amicale?
Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, patients et patientes, quel que soit leur âge, passent beaucoup de temps à parler de leurs amitiés, de l'importance de l'amitié, et du souhait de développer des amitiés ou d'avoir de vrais amis. C'est vraiment quelque chose de très important, oui.
Donc vous sentez à quel point justement ces relations représentent un socle psychique aussi pour les personnes?
Complètement, hein, c'est vraiment le socle psychique le plus fort qui puisse exister, puisque au-delà de l'amour, les amitiés peuvent durer alors que certaines relations amoureuses ne durent quelques années, mais pas forcément toute une vie. L'amitié va durer, mais aussi parce que notre ami nous accepte tel que nous sommes, ce qui n'est pas forcément le cas de la famille et d'autres proches.
Oui, c'est ce qui fait toute la différence, Lolita Rubin, ça,
oui.
Aussi.
Oui, oui, c'est vrai qu'effectivement, on peut être avec ses amis, certainement se confier aussi peut-être sur des éléments où on aurait peut-être plus de mal à se confier à sa famille. Et c'est vrai que du coup, les amis représente vraiment un soutien très important pour les individus de manière générale.
Jeudi, faut-il interdire les vaccins? Lise Barnéou, Dominique Dupagne, Caroline Tourbe et Anne-Marie Moulin.
C'est vrai que j'aurais souhaité qu'on explique davantage aux Français l'historique de l'obligation. Il y a quelque chose de bizarre. Il y avait 5 vaccins qui étaient obligatoires. Le dernier, c'est en 1964. On a arrêté l'obligation au moment où on avait des vaccins de plus en plus efficaces. Donc c'est tout simplement parce que effectivement le régime était paternaliste et que jusqu'en 64, on pensait que la meilleure manière pour l'État, c'était d'obliger. Et qu'aujourd'hui, l'État doit traiter avec les citoyens et négocier quelque chose.
Mais
difficile à prendre.
On entendait Alain Fischer qui disait peut-être que pour dans le futur ne plus obliger justement à la vaccination, ben on en passe aujourd'hui par une vaccination obligatoire de tous les vaccins. Enfin, on ne comprend pas très bien, quoi.
Mais je crois que le comité, à sa tête Fischer, a voulu montrer que il n'y avait pas des vaccins bons, efficaces, obligatoires, et puis des vaccins plus ou moins douteux.
Donc on oblige tout le monde à se faire vacciner,
voilà,
c'est ça l'idée.
En quelque sorte,
de mettre sur le même piédestal tous les vaccins.
Sauf que c'est complètement incompréhensible aujourd'hui.
Il y a une logique. Un des arguments, c'est quand même que les enquêtes menées là cette année pour comprendre quelles seraient les conséquences d'une levée de l'obligation. Enfin, j'ai pas réussi à retrouver la source exacte de ces enquêtes, mais montrent que moins de 85% des médecins insisteraient auprès des familles sur l'importance à vacciner les enfants si les obligations étaient levées, et montrent aussi qu'environ 20% des jeunes parents interrogés ne feraient plus ou probablement plus vacciner leurs enfants si la diphtérie, les vaccins DTP n'étaient plus obligatoires. Donc je veux juste expliquer que c'est une logique qui peut s'entendre.
Caroline Tourbe.
Donc ça veut dire qu'en fait il y aurait de la casse, parce qu'il y aurait des enfants qui ne seraient pas vaccinés, donc il y aurait des enfants qui tomberaient malades de maladies pour lesquelles ils auraient pu être protégés. Donc c'est aussi de dire à la société française, ok, on arrête l'obligation, on se lance dans le recommandé, ça finira par revenir à l'équilibre. En attendant, il risque d'y avoir de la casse, on n'accepte pas cette idée-là, on fait un pari. Pari, vous le disiez, c'est l'aventure de la vaccination, on se relance, c'est l'aventure. J'ai l'impression que le comité, je ne partage pas forcément, mais il a voulu un peu se protéger.
Il a voulu se protéger, il a voulu éviter justement l'aventure. Et solidariser la cause des vieux vaccins avec celle des vaccins modernes,
la société a changé.
Et plus efficaces.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.